Europe Soir Weekend,
Jeanne Baron.
19h34 est l'heure de notre grand débat d'Europe Soir Weekend. Le 14 février 1989, l'ayatollah Khomeini, guide spirituel de la révolution islamique d'Iran, édicte une fatwa. Celle-ci vise l'écrivain Salman Rushdie qui vient de publier un nouveau roman. Ça s'appelle « Les versets sataniques ». Cette publication a provoqué la colère d'une partie du monde musulman. Alors pendant 10 ans, l'écrivain doit se cacher, utiliser un nom d'emprunt, vivre sous surveillance rapprochée. Et en 1998, après des négociations notamment avec la Grande-Bretagne, l'Iran s'est engagé, on va les citer, à ne plus encourager les tentatives d'assassinat contre Rushdie. Et pourtant, avant-hier, lors d'une conférence aux États-Unis, Salman Rushdie est poignardé violemment à la gorge et à l'abdomen. On va donc se poser cette question, la liberté d'expression est-elle menacée dans nos sociétés? Mais pas que la liberté d'expression, la liberté est-elle menacée dans nos sociétés? On en parle avec vous dans ce studio. David Rigoulet-Rose, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé à l'ERIS, auteur de « La République islamique d'Iran en crise systématique, 4 décennies de tourments ». Amélie Chély, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, spécialiste de l'Iran et politologue du monde musulman contemporain, auteur de « Dictionnaire des islamistes ». Et puis dans quelques minutes, 2 autres invités cette fois par téléphone. On dira quand ils seront bien sûr prêts et connectés. Cette question d'abord, la presse iranienne avait écrit « Comment ce suppôt de Satan peut-il encore vivre ?» Qu'est-ce que ça révèle, Amélie Chély?
La République islamique d'Iran repose sur une idéologie qui s'appelle le Veloyat-e Fari, c'est-à-dire la tutelle du juriste théologien, et qui, comme toute idéologie, fait une sorte de grand distinguo absolument radical entre le bien et le mal, entre ce qui est licite et illicite. Donc forcément, soit vous souscrivez point par point à l'intégralité de cette idéologie et vous êtes dans le bien, soit vous n'y souscrivez pas, et là vous êtes dans le mal et vous êtes diabolisé. Ça a été de façon très virulente le cas, surtout dans la première décennie de la République islamique d'Iran jusqu'à la mort de Ruhollah Khomeini en 1989. Mmh. Ça a bien évidemment continué après, mais en s'assouplissant. C'est éventuellement, on va dire, dans les années 2010 que les choses ont commencé un petit peu à s'assouplir du fait d'une une nécessité pragmatique, en fait, de réelle politique. Mais, comme vous le disiez tout à l'heure, dans les années 90, on s'est rendu compte que cette fatwa a fait l'objet de négociations qui ont abouti à un assouplissement, c'est-à-dire pas un retrait de la fatwa, c'est-à-dire qu'à l'époque, le ministre des Affaires étrangères, Kamal Khazi, avait expliqué qu'il ne fallait plus encourager la population à respecter cette fatwa. Cependant, en 2006, elle a été rendue perpétuelle, c'est-à-dire qu'elle n'est plus attachée à celui qui l'a émise, parce qu'il faut savoir qu'une fatwa meurt en même temps que son émetteur.
D'accord.
Donc elle est perpétuelle, elle a été rendue perpétuelle par un rouage fondamental institutionnel de la République islamique qui est la fondation des martyrs.
Donc elle ne sera jamais levée.
Elle ne sera jamais levée.
Bon. Une fatwa sur la tête de Salman Rushdie depuis 33 ans et aujourd'hui il sort de soins intensifs, il recommence progressivement à parler, il va probablement perdre un œil, hein, et l'usage d'un bras aussi. Est-ce que c'est une victoire de l'obscurantisme, David Rigoulet-Rose?
C'est-à-dire que l'écrivain est presque malgré lui d'ailleurs devenu en quelque sorte l'incarnation de ce qui en Occident fait figure de liberté d'expression en général, voire de liberté tout court, puisque les deux sont généralement associés. Donc c'est un vrai problème de fond, parce qu'il y a un télescopage culturel effectivement sur la conception de la liberté d'expression. Vous évoquiez tout à l'heure la question du Velayat et Fari, c'est-à-dire la prédominance du religieux sur le politique. L'Occident a connu ça, hein, notamment en termes de sur des écrits littéraires ou scientifiques. Il faut rappeler au Moyen-Âge, avec ce qu'on appelait la mise à l'index de cette logique inquisitoriale de l'Église. Et là, on retrouve la notion de clergé, effectivement, et de logique inquisitoriale. Simplement, on n'est plus au Moyen-Âge. Donc, évidemment, pour nous, ça pose un problème majeur.
Bien sûr.
Compte tenu des évolutions sociétales qu'on a connues. Et il y a une régression incontestablement générale, et qui n'est pas propre d'ailleurs au monde arabo-musulman, hein, parce que sur cette question de la liberté d'expression, on voit qu'il y a depuis une trentaine d'années, y compris dans nos sociétés dites ouvertes au sens philosophique du terme, une espèce de, d'inhibition sur certains sujets. On le voit avec la culture wokiste, hein, mm-hmm. qui stigmatise. Donc, et qui est une forme d'intégrisme aussi. Hein. Donc, il y a de ce point de vue-là, au niveau général, et c'est très inquiétant, effectivement, une forme de régression globale. Évidemment, un auteur comme Salman Rushdie est l'archétype de celui mm-hmm. qui essaie de résister à ce type d'évolution. Mais il en est évidemment aussi la victime.
Bien sûr. Pierre Conessa, bonsoir. Vous venez de nous rejoindre. Vous êtes ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Avec Dieu, on ne discute pas ». Les radicalismes religieux désislamiser le débat. Ce n'est pas évident à dire. Salman Rushdie, il pensait que cette vague musulmane intégriste, c'est important de le dire, intégriste, c'est une autre vague, hein. Allez se calmer. Est-ce que vous pensez qu'il a eu tort? Est-ce que l'intégrisme, c'est un danger qui est toujours d'actualité? Et pire encore, est-ce que l'intégrisme ne s'arrête jamais?
Ah, écoutez, d'abord, ça vous a été suffisamment développé, c'est-à-dire l'hypocrisie du régime iranien est assez surprenante. Prétendre qu'on ne va pas l'appliquer, on ne va plus inciter quelqu'un à venir assassiner Rushdie, ça ne tient pas compte de la nouvelle disposition de la menace terroriste. Vous avez un émetteur idéologique, en l'occurrence c'était Khomeini, et qui 33 ans avant a mandaté un individu, Hadi Matar, là, celui qui a tenté d'assassiner Rushdie, ouais. qu'il n'a probablement jamais connu puisqu'il a que 24 ans. Bon. Donc une fois qu'une excommunication assassine comme ça a été mise, elle peut être récupérée n'importe où sur la planète. Et on a des cas qui ont précédé. Hein. Rappelez-vous quand même que Samuel Paty, Anzorov ne le connaissait même pas. C'est simplement Sefrioui, un autre idéologue qui avait décidé de sa mort. Et donc Charlie Hebdo, pareil, les frères Kouachi, si vous voulez, ne connaissaient même pas Charlie Hebdo. Donc on est sur un dispositif où cet intégrisme islamiste est aujourd'hui lance des mandats et ensuite n'importe qui sur la planète peut décider d'être mandaté par
en quelque sorte.
Voilà, ouais. Exactement.
Michel Fize, vous êtes sociologue, auteur du livre Radicalisation de la jeunesse, la montée des extrêmes. Cette jeunesse, j'aimerais qu'on en parle ensemble. Ça renvoie aussi à la question de l'obscurantisme, peu importe les religions. On a l'impression qu'on a une jeunesse qui se radicalise. Et que ça passe aussi par les outils qui devraient aujourd'hui nous porter, à savoir Internet, les réseaux sociaux. Comment est-ce que, sociologiquement, on peut expliquer ça?
Mais parce qu'il n'y a plus, malheureusement, de distinction entre la simple opinion que chacun peut tenir, et sur les réseaux sociaux, comme vous le rappeliez, et puis des savoirs patiemment élaborés. Alors, d'ailleurs, si vous me permettez une petite réflexion sur les versets sataniques, ce qui est le comble dans cette affaire, c'est que les versets sataniques ne sont pas une satire contre l'islam. Les versets sataniques sont une sorte de conte philosophique, comme on a pu le voir avec Voltaire dans Zadig, ou Erasme avec son éloge de la folie, ou Thomas More avec l'utopie. Un Salman Rushdie est un musulman qui est ouvert à toutes, toutes les religions. Donc finalement, voilà un exemple même dans lequel tombent évidemment beaucoup de gens et de jeunes en particulier. Hein, on va prendre des décisions au vu d'un événement qu'on connaît mal ou d'un livre qu'on n'a pas lu, parce que beaucoup de gens, sinon peut-être la plupart, n'ont pas lu les versets sataniques, hein, et donc partent sur, évidemment, un titre. Voilà. Bon, il est probable d'ailleurs que peut-être si M. Rushdie réécrivait ce livre aujourd'hui, dans un contexte beaucoup plus explosif qu'il y a 34 ans, il choisirait un autre titre, parce que le titre a semé la confusion. Et donc,
oui, d'un
sur
côté les
réseaux
versets,
sociaux,
de l'autre, le rapport à Satan, au diable, les versets sataniques, donc effectivement... On peut vite faire le coup.
On a pris évidemment deux mots sensibles, verset, hein, c'est donc la croyance, ouais. évidemment, et puis Satan, c'est évidemment ce qui s'oppose à Dieu.
L'incarnation du diable, bien sûr.
Voilà. Ouais. Alors, la difficulté, c'est que beaucoup de musulmans, et de jeunes musulmans en particulier, reçoivent aujourd'hui les critiques contre le prophète comme des insultes, hein, comme une atteinte à leur liberté de conscience. Alors, le fait est, c'est qu'en matière religieuse, la liberté d'expression, elle est très grande, puisqu'elle comprend aussi le droit au blasphème. Donc on est dans une liberté à peu près absolue, enfin, sauf comme à rappeler que l'antisémitisme est condamnable.
Bien sûr. Hein,
tenir un propos antisémite, ce n'est pas une opinion.
Bien sûr.
C'est un délit. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait évidemment apprendre à lire les images, apprendre à décoder des textes, hein, à ne pas prendre pour argent comptable. Vous savez, on est sur un volcan, hein, au sens pas seulement climatique du terme, mais au sens social du terme. Voilà. Donc aujourd'hui, évidemment... une petite flamèche hein, va partir et déclencher oui. un formidable incendie idéologique, social. Voilà, et c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Amélie Chély, on parlait effectivement de... On ne peut pas tout dire non plus aujourd'hui en France, c'est aussi la limite à la liberté d'expression, notamment sur certaines religions. Est-ce que vous pouvez comprendre, ou en tout cas, est-ce que vous pouvez expliquer que certains musulmans se sentent stigmatisés ? Ça veut dire qu'on utilise l'image du prophète Mahomet, qu'on ait des insinuations envers eux, qu'on puisse faire des ponts musulmans égale radicalisation, etc. Mmh. Est-ce que ça peut aussi expliquer cette mouvance intégriste plus jeune qui se sentirait peut-être mis de côté de la société ?
Oui, alors il y a en fait en filigrane... on va dire de façon un peu rampante, des idéologies qui sont très diffusées, notamment je pense au frérisme, hein, les frères oui. musulmans, qui jouent énormément sur trois leviers en France. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les frères musulmans, c'est ce qui fait le plus rage, puisqu'on parlait de Samuel Paty, on s'est rendu compte qu'on pouvait de façon un peu plus décomplexée parler des frères musulmans comme étant une confrérie dangereuse, puisqu'elle a fait partie finalement de cette cabale autour de Samuel Paty qui aura poussé Abdullah Khanzorov à prendre les armes. Mais cette confrérie est une confrérie qui est perpétuellement en djihad.
Simplement, c'est quoi le djihad ? Expliquez à ceux qui ne connaissent pas.
Le djihad, d'un point de vue traditionnel, dans la religion traditionnelle, il y en a de trois sortes. C'est le djihad de cœur, c'est le fait de lutter contre ses propres mauvaises tendances. Oui. C'est le djihad de plume, le fait d'aller convaincre les autres de procéder à la même chose. Et puis ensuite, il y a le djihad d'épée, mais qui est extrêmement réglementé et qui ne peut exister que dans certains contextes. En revanche, sous la plume d'idéologues contemporains, notamment de Seyed Qutb, qui est l'idéologue des frères musulmans, on a vu émerger une redéfinition du djihad qui devient djihadisme. On associe le mot « isme » qui finalement investit l'idée d'une idéologie.
Donc c'est l'extrême du djihad ?
En fait, c'est la systématisation d'une lutte
D'accord.
contre l'ennemi qui, pour les frères musulmans, c'est le juif et le croisé. Après, il y a des diphtongues quand on est par exemple chez Daesh, qui est aussi un groupe djihadiste, c'est le chiite, la première cible.
Et c'est qui le croisé ?
Le croisé, c'est les chrétiens. Voilà. Donc, dans ces idéologies-là, on est perpétuellement en djihad. Et ce djihad, nous, occidentaux, on a l'impression qu'il n'existe que quand il y a des vagues de violence. Or, il y a deux temps dans le djihad. Il y a ces vagues de violence, mais qui ne sont finalement que l'aboutissement de longues périodes prédicatives, qui sont un petit peu plus finalement sous les radars, puisqu'elles font moins parler d'elles, mais qui sont là pour tisser dans la société finalement la diffusion d'un certain nombre de discours qui sont haineux. Ce qui me permet de répondre à votre question. Ce qu'ils visent, c'est le renversement des discours. C'est-à-dire que où que vous vous trouviez, dans quelque société que vous soyez, il y a toujours un discours dominant, c'est-à-dire celui qu'on peut développer sans complexe, peu importe le public qu'on a devant soi. Et un discours minoritaire qu'on vient censurer soi-même si on ne sait pas à qui on s'exprime. Par exemple, dire « les hommes et les femmes sont égaux », il me semble que je peux le dire sans complexe en France, mais il y a certainement aussi des forces idéologiques qui essaient de faire en sorte que ça devienne le discours minoritaire complexé. Et c'est le cas dans certains environnements, dans certaines écoles, comme on le sait. Il y a des environnements, par exemple, je pense notamment en Alsace, où on ne peut pas faire de cours sur le génocide arménien. Hein, parce que je suis en communication avec beaucoup de collègues professeurs qui m'expliquent comment est-ce que je peux faire et qui me demandent conseil, comment est-ce que je peux faire, parce que je suis dans un environnement où le discours dominant qui est censé être celui de l'explication finalement de ce pan du programme scolaire, je ne peux pas l'enseigner.
C'est extrêmement intéressant parce que j'allais vous poser la question, est-ce que la clé est éducationnelle, mais si même les professeurs sont démunis, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? David
Oui, en principe la clé effectivement elle est sur le registre éducatif, mais on sait très bien aujourd'hui qu'il y a un affaissement, justement. Et c'est la capacité critique, en fait, qui est en régression, y compris dans nos sociétés. Et effectivement, alors, selon les pays, il y a une conception plus ou moins élargie de la liberté d'expression. Oui. Par exemple, aux États-Unis et en France, ce n'est pas la même chose. Vous évoquez tout aujourd'hui les limites fournies par la loi. Aux États-Unis, le Premier Amendement permet de dire exactement tout ce qu'on pense, sans aucune limite. Mais en même temps, il y a des phénomènes effectivement inhibiteurs et un déficit critique. Puisqu'on voit même aux États-Unis des programmes scolaires qui sont critiqués justement par les créationnistes, etc. Mmh. Donc c'est assez général et c'est très inquiétant parce qu'en réalité c'est un travail de sable de ce qui était l'esprit des Lumières qui a mis beaucoup de temps à s'imposer. Et il y a manifestement aujourd'hui, on rentre dans une période beaucoup moins lumineuse.
Oui. Pierre connaît ça, on est dans une période obscure, Notre jeunesse, elle est menacée intellectuellement, structurellement?
D'abord, je voudrais faire remarquer que tout le monde est d'accord sur le retour du religieux qui commence dans les années 70-80. Mm-hmm. Mais surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est la poussée des extrémismes et des radicalismes dans toutes les grandes aires religieuses, y compris chez les polythéistes, y compris chez les bouddhistes et chez les hindouistes. Donc ça, c'est un phénomène qui est devenu général. La deuxième chose, c'est que moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, parmi les, disons, la disparition de ces pratiques de la défense de la laïcité, moi, je suis frappé par le jugement du tribunal administratif de Paris, qui vient d'annuler l'arrêté d'expulsion de Hikyusen.
Alors, on va le rappeler, cet imam qui avait été très controversé pour ses prises de position radicales, notamment sur Internet, expulsion demandée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, réponse du tribunal administratif qui retoque cela.
La réponse ordinaire, parce qu'il dit oui, c'est vrai qu'il est antisémite, oui, c'est vrai qu'il est raciste, oui, c'est vrai qu'il est misogyne, mais il n'appelle pas à la violence. Et donc, on ne peut pas l'expulser, mais c'est extraordinaire.
Alors,
ce n'est
pas tout à fait ce qui est dit dans la décision, si je puis me permettre, Pierre Conessa, c'est
plutôt
c'est une question...
Moi, je suis ancien juge administratif.
Non, mais vraisemblablement, c'est... Alors, on va vous entendre, parce que vraisemblablement, c'est purement administratif. La loi est faite comme ça. Il ne peut pas être éloigné de sa famille parce qu'il est citoyen français.
Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
Il n'est pas citoyen français.
L'argumentaire...
Il n'est plus citoyen français. Il est né en France.
Il n'a jamais été. En fait, son père n'a pas voulu que son fils ait la nationalité.
Il a cherché
à la... Oui, mais il est né en France, à Dun. Il a cherché à
l'avoir,
mais il
n'a jamais réussi.
Donc ici, vous êtes tous choqués de cette décision du tribunal administratif. C'est intéressant pour moi de le savoir.
Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez
paradoxal. David Rigolet-Rose.
C'est quand même assez paradoxal. En plus, il y avait un recours au niveau européen, à la Cour européenne des droits de l'homme, qui a validé la décision
de
l'expulsion. Mmh. Donc on pouvait dire que ces droits étaient garantis. Et donc c'est de la part du tribunal administratif français. Ça pose un vrai problème sur le fond, sur la justice administrative. D'ailleurs, il y a un recours au Conseil d'État.
Ouais. Mais il est possible apparemment que le Conseil d'État donne raison au tribunal administratif, hein, Amélie Chély.
Oui, mais ce qui est peut-être un petit peu plus choquant encore, c'est qu'en fait... Un des arguments qui a poussé le tribunal administratif à retoquer la décision, c'est qu'à partir de 2014, il aurait cessé de diffuser des documents vidéo antisémites et qu'en 2015, je crois, il en aurait même diffusé un qui s'excusait finalement de cette question. Or, c'est une stratégie qui est purement frériste. De rentrer
ce
finalement.
Que vous nous expliquez tout à l'heure.
C'est-à-dire qu'en fait, contrairement aux salafistes non fréristes, parce que les fréristes sont des salafistes aussi, mais contrairement aux salafistes non fréristes qui, eux, ne sont pas dans le compromis, veulent tout appliquer tout de suite, maintenant, des lois des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire des trois premières générations de l'islam, les frères musulmans, eux, sont dans un assouplissement des choses, de sorte à ce que, quand on est mis en danger et qu'on ne peut pas continuer de progresser pour propager l'idéologie, on a le droit de se cacher, d'entrer dans une sorte de taqiya, c'est-à-dire d'occultation de son appartenance, et donc de revenir et de faire ce genre de vidéos sans que ça devienne illicite d'un
pour
point de vue religieux.
Retaper après.
Exactement.
D'accord. Pierre Conessa, on vous redonne la parole. Continuez sur ce que vous étiez en train de nous exprimer. Vous disiez que vous aviez été choqué.
Moi, je suis d'autant plus choqué que je suis un ancien juge administratif.
Oui.
C'est-à-dire que quand on applique une jurisprudence, n'oubliez pas que la jurisprudence, c'est quand même une interprétation des textes.
Bon. Mm-hmm.
Or, on avait un homme qui cochait toutes les cases. C'est-à-dire qui était antisémite, homophobe, misogyne, tout ce que vous voulez, qui avait appelé au djihad, etc. Mmh. Et puis qui ensuite, à un certain moment, dit non, c'est fini. N'oubliez pas que c'est un homme qui a renoncé à sa nationalité française quand il est passé à la majorité pour rester marocain, qui ensuite l'a redemandé deux fois, ça lui a deux fois été refusé. Et aujourd'hui, il est effectivement dans une situation d'un type qui continue sur le territoire français, dans une situation illégale, à prêcher des choses qui sont normalement punies par la loi.
Est-ce que là encore, on est sur sa liberté d'expression? C'est une vraie question que je vous pose, hein, philosophiquement. Est-ce que lui, c'est sa liberté d'expression de tenir des propos qu'on condamne tous? Mais est-ce qu'on est là-dedans, par exemple?
La loi française le réprime, puisqu'on sait bien que l'appel à l'antisémitisme, à la misogynie, etc., sont des délits. Le fait qu'un tribunal administratif n'ait même pas retenu la notion de délit est quand même très étonnant.
Et d'après vous, pourquoi, Pierre Conessa,
C'est à moi que vous posez la question.
Oui.
Ben écoutez, moi, je vais vous citer le dernier exemple que j'ai vécu au tribunal administratif avant de quitter cette fonction. Mmh. Il y avait le cas d'un homme qui était frappé d'un arrêté d'expulsion. Il avait fait du trafic de drogue. Alors, on était après la loi de 81 qui avait modifié l'ordonnance de 45, c'est-à-dire qu'un homme né d'un parent d'un enfant né à France devenait inexpulsable. Bon. Donc cet homme avait effectivement un argument de droit qui aurait pu empêcher son expulsion. Alors, dans le tribunal administratif, vous avez deux dossiers. Un dossier de sursis, c'est-à-dire celui que vous faites passer en urgence, et un dossier au fond, où vous jugez le fond du dossier. Le dossier de sursis, en général, le Conseil d'État considère que si l'application de la décision administrative crée un préjudice difficilement réparable, à ce moment-là, il faut y faire attention, puis regarder s'il y a un argument de droit. Or, lui, il avait un argument de droit, et le Conseil a toujours considéré que l'expulsion, évidemment, créait un préjudice difficilement réparable. Mais quand on regardait le dossier de police, on s'apercevait que ce type, non seulement ne s'occupait pas de son enfant, mais en plus, quand il voyait son ex-femme, il a frappé.
Oui, mais il n'a jamais été condamné. Oui.
Sauf que à l'époque, il vous parlait de qui ? Moi, je vous parle de mon cas. Moi, je me suis battu en disant, mais le préjudice, c'est pas à lui qu'on le crée, puisque le droit de frapper sa femme n'est pas constitutionnel. Et donc, il a fallu débattre pendant 3 heures pour qu'à la fin, j'obtienne gain de cause et qu'on ne prononce pas le sursis de l'exécution de cette décision. Et là, vous êtes exactement dans la même situation. Vous avez un homme qui a un dossier lourd.
Mais là encore, pas condamné. Là encore, jamais condamné. Dossier lourd, mais jamais condamné. La loi reste la loi. S'il n'est pas condamné, faut-il faire justice soi-même ? Faut-il transformer la loi ? C'est tout le débat qu'il y a aujourd'hui.
Mais attendez, on ne fait pas justice soi-même. Il y a un arrêté d'expulsion prononcé par une décision publique démocratique, ministre de l'Intérieur, et vous avez un tribunal administratif qui considère que tous les délits qui ont été... Enfin, les excès ou les violations de la loi... Retoque cette décision. Donc on va voir, moi je vous parle d'après une longue discussion avec un conseiller d'État qui est choqué comme on ne peut pas l'imaginer. Voilà, donc on va attendre la décision du Conseil d'État, mais enfin il reste que la justice se discrédite quand on est face à ce genre de choses.
On va revenir, si vous le permettez, sur la liberté d'expression. On a tout à fait entendu ce que vous dites, hein, Pierre Connaissat. Michel Fize, est-ce que j'aimerais revenir là-dessus. Est-ce que quand on tient des propos qui sont parfois extrêmes, à l'inverse de Salman Rushdie, qui lui est un écrivain qui pouvait écrire ce qu'il voulait, à l'inverse de J.K. Rowling qui se dit ce soir menacé, à même enseigne que Salman Rushdie. Est-ce que quand on est par exemple cet imam, sans vouloir encore faire de la justice, mais on utilise aussi sa liberté d'expression pour pouvoir, à foison, tenir des propos extrêmement condamnables.
Mais on voit toute la difficulté de définition de ces grandes notions qui caractérise nos sociétés démocratiques. Liberté d'expression, selon le domaine, selon la personne, évidemment, on va l'interpréter de telle ou telle manière. Selon l'institution, on va aussi lui donner un sens qui peut varier de celui d'une autre institution. À côté, il y a la liberté de conscience, la liberté d'aller et de venir, le respect des croyances religieuses, la tolérance. Hein. Une société démocratique ne repose pas sur un seul principe. Hein. Au contraire, des sociétés totalitaires qui repose sur le principe unique de la violence. Donc, on voit aujourd'hui l'embarras, évidemment, de rester accroché à des définitions qui soient à peu près communes. Hein. Évidemment, on pourrait lancer le débat sur la laïcité. Vous, moi, vos autres intervenants, chacun a une définition particulière de la laïcité. Hein. Il y a des tonnes de livres, d'ailleurs, sur, évidemment, toute l'errance qu'il peut y avoir derrière la sémantique. Voilà, donc, ce qui est problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a évidemment des décisions administratives qui vont dans un sens, des décisions judiciaires ou juridictionnelles qui vont dans un autre sens. Voilà. Et quelle est finalement la clé, hein, sur quelle base, véritablement, se décide-t-on ? Voilà. Alors, il faut faire attention, non pas aussi de ne pas condamner des gens, alors c'est un peu triste à dire, mais avant qu'ils aient passé à l'acte. Hein. Heureusement qu'on ne condamne pas un délit d'opinion dès lors qu'elle n'est pas exprimée, cette opinion. Voilà, mais on navigue... Vous savez, la difficulté, c'est que tout donne lieu aujourd'hui à interprétation et à réponse immédiate, parce qu'on n'a pas le temps. On est enfermé dans des délais, il y a des urgences politiques...
Et vous parliez du temps, à l'instant, Michel. Notre temps est écoulé. J'aurais voulu vous tenir encore plus longtemps, chacun d'entre vous. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Une toute dernière question, juste par oui ou non. Elle existe, la liberté d'expression, Amélie Chély?
On espère. Ce sera d'autant plus compliqué qu'en France, on a en plus cette question du droit au blasphème qui cristallise pas mal les détestations partout dans le monde.
Merci beaucoup. Amélie Chély, sociologue. David Rigoulet-Roche, chercheur associé à l'ERIS. Michel Fize, sociologue. Pierre Connaissat, ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense, auteur du livre Avec Dieu, on ne discute pas.